Avoir raison avec Judith Butler. De toutes les grandes figures de la pensée américaine dont il a été et sera question dans cette série d'Avoir raison avec, cet été sur France Culture, Judith Butler est la seule encore vivante. La seule donc à ne pas avoir fini encore d'écrire, de s'engager et peut-être même d'évoluer. Qu'est-ce qu'une vie bonne ? Comment conduire sa vie de façon acceptable quand le monde paraît de plus en plus inacceptable, lui ? La question est vieille comme la philosophie. Judith Butler s'en est emparée lors d'une conférence prononcée en 2012 à l'occasion de la réception du prestigieux prix Adorno, puis plus longuement dans un essai paru en français en 2016 chez Fayard sous le titre « Rassemblement ». La démarche est volontairement morale et politique. Elle est même dans une certaine mesure normative. Évidemment, de la part de la philosophe de la déconstruction du genre, la foucauldienne qui a tant écrit sur les mécanismes de domination et de pouvoir, cela a de quoi surprendre. En réalité, la surprise vient d'une lecture superficielle de l'œuvre de la philosophe américaine qui, comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises depuis le début de cette semaine, a articulé toute sa pensée autour du désir, de sa reconnaissance à travers la performativité et la place des corps. Au tournant des années 2010, elle revisite donc ses travaux passés et montre que leur fil conducteur se retrouve dans une notion, celle de vulnérabilité. C'est aussi un moment où Judith Butler, qu'on a souvent accusée d'être déconnectée du réel, de déconstruire presque pour le plaisir sans jamais rien proposer, montre que sa philosophie est aussi une politique. Être là, se tenir debout, respirer, se déplacer, rester immobile, parler, se taire, sont autant d'aspects d'un rassemblement soudain, d'une performativité politique qui place la vie vivable au premier plan du politique. Voilà les mots de Judith Butler dans Rassemblement qui montrent la vulnérabilité, celle des femmes, des LGBT, des réfugiés, des Palestiniens, cette vulnérabilité est ce qui rend possible la responsabilité. De la vulnérabilité au rassemblement Judith Butler politique, c'est le thème de ce quatrième volet de notre série « Avoir raison avec Judith Butler ».
For instance, I have been concerned in some of my recent writings, as I know you are and many people in Europe are,
about
the plight of refugees.
Je me suis intéressée à la détresse des réfugiés
stranded along the Mediterranean.
Qui meurent en Méditerranée, qui sont coincés sur les rives de la Méditerranée. Quel est le statut de ces existences, de ces vies?
Rights, they're without belonging.
Ils sont privés de tout droit. Ils n'ont aucune appartenance à rien. Ils n'ont pas le droit de circuler, souvent même pas le droit à s'exprimer. Quel genre de vie mènent-ils? Comment décririons-nous leur existence? D'un côté, on peut décrire les privations massives et cet abandon choquant de la part de l'Union européenne ou de tous les pays concernés, Moyen-Orient, etc.
If we look closely, we see that there are ways that refugees are organized.
Et si on regarde de plus près, on voit que des réfugiés arrivent à s'organiser. Ils ont presque tous un téléphone portable. Ils appartiennent plus ou moins à des réseaux. Ils savent le genre de papiers, de documents qu'ils doivent obtenir.
West of Greece, you have to get a vulnerability paper.
Dans l'ouest de la Grèce, par exemple, il faut obtenir un document de vulnérabilité qui établit votre vulnérabilité pour vous offrir des droits à emprunter des modes de transport et à vous déplacer. Donc il y a de la stratégie, il y a des tactiques de survie, il y a des communautés, il y a presque une forme d'autogestion et il y a aussi des manifestations, il y a même en Allemagne un mouvement de résistance de la part des migrants. Ils ont une publication qui appelle à cette résistance.
Être vulnérable n'est pas uniquement être une victime, on l'entend dans cet extrait de Judith Butler dans une émission de Sylvain Bourmeau. En studio pour discuter justement de cette question de vulnérabilité, Corinne Peluchon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie à l'université de Paris-Est, Gustave Eiffel, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme de Nicolas Hulot. Vous êtes investi depuis 20 ans, au moins dans la défense de la cause animale et environnementale. Et la notion de vulnérabilité est évidemment très présente dans vos travaux, notamment dans Réparons le monde qui vient d'être publié en Rivage Poche, mais aussi dans Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, les hommes, les animaux, la nature, c'était aux éditions Le Cerf en 2011. Et nous sommes au téléphone avec Zeynep Gambetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste et vous avez été professeur de théorie politique à Istanbul entre 2000 et 2019 à l'université de Bogachichi, pardon pour la prononciation. Vos recherches portent sur les théories de l'espace public, de l'action collective et de la violence structurelle. Vous avez travaillé, vous, avec Judith Butler, à un ouvrage non traduit en français, Vulnerability in Resistance, qu'on peut traduire facilement par la vulnérabilité en résistance, politique, féminisme et théorie, que vous aviez co-dirigé aussi avec Laetitia Sapsay. Alors, depuis le début de cette semaine, c'est notre dernière émission, j'ai malencontreusement dit quatrième volet, c'est non, le cinquième et dernier volet de cette émission, je pose la même question aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré, Zeynep Gambetti, l'œuvre de Judith Butler et qu'est-ce qu'elle a produit chez vous ?
C'est en fait assez tardivement, c'est-à-dire en 2003, que j'ai commencé à lire les textes de Judith Butler, qui portaient sur la constitution du sujet, notamment son débat avec le philosophe slovène Slavoj Žižek et le philosophe argentin Ernesto Laclau. J'ai lu son livre « Psychic Life of Power » qui date de 1997. Le livre a été le premier à être traduit en français d'ailleurs en 2002 sous le titre de « La vie psychique du pouvoir ». Donc c'est par un autre biais que la théorie du genre que j'ai rencontré sa pensée. Et elle m'avait beaucoup impressionnée parce qu'à ce moment-là, je réfléchissais un peu sur les moyens de dépasser le sujet cartésien, maître de son destin, sont tombés dans un relativisme qui nous empêcherait de développer une théorie critique. Et donc, pour moi, Judith Butler était une des théoriciennes qui avait réussi à formuler une éthique à partir d'une notion de sujet qui est sociale et interdépendante.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous y arrivez autrement que par la question du genre, Zeynep Gambetti. Même question à vous, Corinne Pelluchon. Comment est-ce que vous lisez pour la première fois Judith Butler ?
Alors, la première fois qu'on m'a signalé l'importance de cette œuvre, c'était en 2009, après la publication que j'avais de l'autonomie brisée que j'avais écrit et où il était question de beaucoup d'une éthique de la vulnérabilité, beaucoup inspirée de Lévinas, et une collègue qui connaît très bien l'œuvre de Butler, Kim Sang-hong, qui est à l'université de Bordeaux, m'a dit « Tu devrais lire Judith Butler, qui est foucauldienne et qui pointe pas seulement le caractère fondamental de notre vulnérabilité liée au corps, au fait que nous sommes tous mortels, que nous avons besoin des autres et de soins, mais qui souligne aussi les relations sociales et les situations de domination qui font qu'il y a des reconnaissances différenciées de cette vulnérabilité. Donc, moi, là, et plus tard, après avoir fait ma culture postmoderne et lu les féministes, j'ai lu, donc assez tardivement, mais attentivement et avec beaucoup d'admiration, les travaux de Judith Butler, et elle a tempéré ce qui reste chez moi d'ambition universaliste, parce que je viens de la philosophie phénoménologie, hein, qui a toujours une dimension universaliste, d'écrire l'existant dans sa corporalité, et quand on pense le corps et qu'on le prend au sérieux, qu'est-ce que ça change dans la définition du sujet qui n'est plus autonome, autosuffisant, et dans la politique, donc il y a des points communs. Mais moi, j'ai toujours trouvé beaucoup de points communs, d'attirance pour sa pensée, et en même temps une différence parce qu'elle se situe dans la philosophie sociale qui décrit les cadres à travers lesquels nous sommes amenés à voir ou pas, ou à pleurer ou pas certaines vies. Et je pense que c'est très sain de prendre conscience de cela. Et moi, je reste aussi attachée à la tradition des droits de l'homme et tout ça.
On aura l'occasion d'en parler, Corinne Pelluchon. C'est intéressant ce que vous dites. Et c'est important ce concept de pleurer. Les vies qu'on peut pleurer ou qu'on ne peut pas pleurer. Pleurable, grievable, c'est le terme en anglais qu'on difficilement traduisible. Mais juste encore une question, peut-être, avant de poser la même à Zeynep Gambetti, sur la question de la vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est que ce terme, ce concept? Comment est-ce qu'il apparaît en philosophie? Et on va essayer de voir aussi comment Judith Butler, elle, le manipule peut-être dans ses propres travaux.
Alors, vulnérabilité de vulnus, blessure, peut s'entendre comme la susceptibilité à la douleur, à la souffrance. Ça renvoie à l'altération du corps, à la mortalité, mais aussi à la vulnérabilité à l'injure. À la vulnérabilité linguistique, justement, souligne très fortement Judith Butler. En tout cas, ça souligne le fait que par notre corps et par notre mortalité, notre condition humaine, si je puis dire, pas notre nature humaine, pas d'essentialisme, mais par notre condition humaine et par les situations sociales, plus ou moins justes, eh bien, nous sommes facilement blessés, nous ne pouvons pas nous défendre tout seuls. Et il y a un terme qu'elle associe à la vulnérabilité, mais qui n'est pas exactement la vulnérabilité et qui a deux manières d'être entendue, c'est precariousness et precarity. Precariousness, precarious, précaire, ça vient de prex, la prière, c'est on implore, on prie pour que l'État, les autres, nous donnent de quoi eh bien soutenir notre existence, manger, boire, avoir un abri. Et là, c'est la force de Judith Butler, c'est qu'elle souligne que, justement, certains êtres, alors que nous avons tous une precariousness, certains êtres, eh bien, ont les dépossède de tout droit à circuler, à manger correctement, etc. Et donc, du coup, encore une fois, elle insiste sur les conditions qui font qu'on va prendre soin et reconnaître la vulnérabilité d'une personne ou pas.
Zeynep Gambetti, dans l'archive qu'on a diffusée en début d'émission, dans l'émission de Sylvain Bourmeau sur France Culture, la suite dans les idées, faisait bien attention, Judith Butler, de parler de vulnérabilité, mais aussi de montrer que cette vulnérabilité n'est pas simplement une position de victime.
Exactement. La vulnérabilité ne renvoie pas à la victimisation. Elle a une valence à la fois ontologique, politique et éthique. Le concept prend une place de plus en plus importante dans la trajectoire intellectuelle de Judith Butler. Il a été développé en 2004, explicitement dans son ouvrage « Vie précaire ». Et après, elle y revient ensuite dans « Frames of War, When is Life Grievable ?» en 2009. La traduction française de ce livre, c'est « Ce que fait une vie ?» Et en 2016, encore une fois, dans le volume collectif que nous avons coédité, « Vulnerability in Resistance ». Donc, à un premier registre, comme l'a dit Corinne Peluchon, la vulnérabilité est ontologique, c'est-à-dire elle renvoie à la socialité en fait, c'est-à-dire à la constitution relationnelle de l'existence humaine. Et donc, ça a été dit dans les émissions précédentes, pour Judith Butler, le processus de subjectivation est en même temps un assujettissement. N'est-ce pas? Nous sommes nommés, interpellés, construits en tant que sujet, par et dans le langage, par et dans le pouvoir, par et dans les normes qui nous assignent une identité, un sexe, un genre, et surtout de l'intelligibilité. Mais le concept de vulnérabilité n'est pas un concept purement négatif chez Judith Butler. Au lieu de voir dans cette condition une malédiction, elle y voit la possibilité de fonder une éthique de la responsabilité pour autrui. Et elle évoque Emmanuel Levinas à cet effet, car au fond, la vulnérabilité nous met sur un pied d'égalité et ouvre la voie à repenser le lien social en le refondant sur une base solidaire, dépassant en même temps l'égoïsme et le fantasme, très masculin d'ailleurs, de l'invincibilité. Donc la vulnérabilité permet d'unifier les corps qui ont été dépossédés, c'est-à-dire privés des conditions de vivabilité, à unifier ces corps donc dans une politique de coalition, sans prétendre que les matrices de domination en jeu dans chacun des cas soient identiques.
Oui, on va revenir à cette idée de la coalition, mais je voulais faire réagir Corinne Peluchon sur notamment la référence à Levinas et surtout cette tentative, ou en tout cas cette volonté de Judith Butler, un peu comme le travail qu'elle a mené sur le genre, de ne pas coincer le sujet en fait entre deux alternatives. Là, la question c'est, les personnes vulnérables ne doivent pas être coincées entre une forme de paternalisme, c'est-à-dire être dépossédées de leur possibilité de se constituer comme sujet et d'agir politiquement notamment, et la position de victime dont on a déjà parlé, Corinne Peluchon.
Oui, et je voudrais ajouter que la force critique de la vulnérabilité, c'est aussi de dire que quand on prend conscience et qu'on accepte sa propre vulnérabilité, c'est-à-dire son incomplétude et le fait qu'on n'est jamais seul au monde, qu'on dépend des autres, alors on est capable d'être responsable. Alors on est capable d'être concerné par autrui et la vulnérabilité n'est donc pas seule fragilité et elle est aussi une force, capacité de concerner par autrui. Lévinas disait, sans la moins vulnérable peut être responsable. Mais vous avez raison, un être vulnérable ne doit pas être enfermé dans sa passivité. Il a son mot à dire et il y a vraiment une réflexion que je trouve très intéressante dans tout le travail de Judith Butler et qui fait le lien entre ses premiers travaux sur le genre et les travaux plus politiques, là, c'est l'idée de donner aux personnes de réveiller leur capacité d'agir. Et c'est en se libérant parfois des assignations que justement les personnes ou jouent avec les identités qu'on leur a données, mais aussi arrivent à s'exprimer et aussi, et ça c'est très important, c'est très lévinassien, à prendre conscience de l'ambivalence que nous avons à l'égard d'autrui, puisque quand elle cite et travaille la question de « tu ne tueras point » chez Lévinas, elle souligne que c'est aussi « tu ne tueras point », c'est pas seulement un commandement, une interdiction, mais c'est une tentation, c'est-à-dire que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, la paix c'est toujours faire la guerre à la guerre en soi, c'est-à-dire savoir qu'on peut tuer, ne pas vouloir tuer. Donc c'est vraiment, il y a cette ambivalence au cœur de l'humain qu'elle reprend au grand philosophe Lévinas. Et je dis ça parce que souvent on enferme Judith Butler ou dans une pensée qui serait relativiste ou qui victimiserait, ou on oublie qu'elle s'appuie aussi sur de très grands philosophes. Elle parle l'anglais, elle parle le français pardon, et l'allemand, sur Adorno, sur Lévinas, et elle s'appuie aussi sur pas les leçons de l'histoire, mais cette réflexion qui est au cœur du XXe siècle, de la seconde moitié du XXe siècle, liée à la destructivité de l'humain.
Zeynep Gambetti, vous êtes toujours parmi nous? Oui.
Oui, je suis là.
Oui, non, je voulais vous entendre sur ce que vient de dire Corinne Peluchon et voilà, et cette façon aussi, dans ses derniers travaux de Judith Butler, qu'elle a de s'emparer et de montrer que sa pensée n'est pas enfermée, comme vient de le dire Corinne Peluchon, qu'elle n'est pas simplement une déconstruction de ce qui nous entoure, de la société telle qu'elle est, des enjeux de pouvoir, mais qu'elle dépasse évidemment cette dimension-là.
Exactement. Je voulais signaler un exemple qui nous permettra de repenser et la vulnérabilité dans la résistance et le féminisme, sur lequel Judith Butler s'est exprimée l'année dernière. C'était dans un entretien apparu dans le New York Times. Elle compare les deux mouvements féministes, MeToo aux États-Unis et Ni Una Menos en Argentine. Pour rappel, Ni Una Menos, pas une de moins, dénonce les féminicides et les violences sexistes, tandis que MeToo encourage la prise de parole contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Et en France, je crois que c'était l'équivalent, c'était le hashtag Balance ton port. Alors, les deux mouvements mobilisent la vulnérabilité pour des objectifs politiques, mais les deux cherchent également à renverser la passivité et victimisation attachée aux conditions qu'ils dénoncent, n'est-ce pas? Et selon Judith Butler, bien qu'important, MeToo tombe dans un individualisme qui ne se prête pas à construire une solidarité élargie. Par contre, Ni Una Menos reprend d'une certaine manière l'injonction éthique de « nunca más » ou « jamais plus ». Cette injonction peut être adaptée à d'autres contextes, par exemple « jamais plus la précarité »,« jamais plus l'indifférence envers les vies africaines, indigènes, homosexuelles »,« jamais plus une vie perdue aux politiques néolibérales d'endettement ou au changement climatique » et ainsi de suite. C'est dire que Ni Una Menos commence dans un moment négatif, critique, mais se montre capable de s'étendre à d'autres mouvements de façon à englober des réclamations diverses et affirmatives et constructives. Et c'est en fait ce que recherche Judith Butler. selon laquelle l'éthique ne peut pas rester au niveau individuel et négatif, tel « oui, je m'oppose à ceci » ou « je me transforme et je deviens éthique tout seul ». Non, il faut chercher à transformer tout un ensemble de relations sociales, matérielles et discursives pour éliminer la précarité et rendre chaque vie vivable. En d'autres termes, l'éthique politique consiste à construire un « nous » un sujet politique dont l'identité n'est pas donnée au préalable.
Je suis la pleureuse italienne, recroquevillée sous le chêne. D'un cimetière imaginaire où l'on n'enterre guère que de l'air. Où pourvu qu'une guerre explose, pourvu qu'un tyran s'interpose, j'aime tant pleurer avec mes frères, oui c'est très beau de les voir faire.
France Culture, il est midi 21 minutes. Vous écoutez Avoir raison avec Judith Butler, la dernière émission de la semaine pour cette série. Nous évoquons pour cette dernière émission la notion de vulnérabilité et la politique de Judith Butler avec la philosophe Corinne Peluchon et la politiste Zeynep Gambetti. Alors, depuis quelques années, on a remarqué que Judith Butler abordait donc ce concept des implorables, des précaires, des jeunes table et qu'elle montrait que finalement il y avait une possibilité de puissance, d'empuissancement, d'empowerment politique pour ces personnes. Et ça fait penser, Corinne Peluchon, que la vulnérabilité n'est pas nécessairement, pour Judith Butler, la conséquence, par exemple, des rassemblements, des revendications politiques. On pourrait penser au mouvement Occupy ou au mouvement des places, où on voit une forme de répression politique. Et donc, on pourrait se dire la vulnérabilité, elle est là, dans le fait de mettre son corps en jeu dans l'espace public. Et en fait, ça se passe autrement chez Judith Butler. C'est que la vulnérabilité précède cette mise en jeu des corps.
Oui, vous avez raison. Il y a un regard en amont. C'est vrai que là, il y a une fonction critique de la vulnérabilité. C'est-à-dire que quand on prend au sérieux la vulnérabilité fondamentale, universelle et différenciée, alors il y a des obligations sociales qui changent. On ne peut pas fonder la socialité sur l'avantage mutuel, l'égalité de pouvoir, comme chez Hobbes. Il faut non seulement reconnaître les situations d'inégalité, d'asymétrie, mais aussi penser la solidarité, l'égalité réelle, et aussi prendre conscience des frames, des cadres à partir duquel sont distribuées les valeurs de la vie de manière différenciée et carrément injuste et scandaleuse. Et dans l'extrait que vous avez montré, fait entendre, Judith Butler parle de ces contradictions qui sont dans notre monde, c'est-à-dire qu'il y a des vies dont on considère qu'elles ne sont pas pleurables, qu'elles ne valent pas, et comme disait Adorno, il y aura des gens qui mourront sans avoir le droit à la citation. Ou Benjamin, qu'elle cite beaucoup aussi, eh bien des vies anonymes, et l'histoire est toujours celle des vainqueurs. Alors justement, il y a ce travail, regarder en amont, justement, considérer la vulnérabilité fondamentale et différenciée afin de mettre au jour des conditions qui enrichissent justement la socialité et qui font que certaines choses sont injustes et qu'il ne faut pas se payer de mots en invoquant une égalité qui n'est que sur le papier. Donc là, il y a vraiment, donc, faut voir à quel point la notion de vulnérabilité n'est pas seulement une notion de déconstruction. Bien sûr, elle déconstruit toute cette armature conceptuelle qui fait que certains êtres et même certains vivants, comme les animaux, n'ont droit à rien, et la mise à mort provoquée de ces animaux, eh bien, n'est pas pas un tuntur à point. Eh bien, elle va pas jusque-là, mais moi j'y vais. Et je crois que quand on pense la vulnérabilité au sérieux, c'est une bombe. Mais il y a aussi un aspect constructif, ça a été dit par Zineb tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nous engage de manière très profonde vers la redéfinition d'une socialité, d'une cohabitation avec les autres qui soit plus juste et qui soit une vraie paix.
Alors Zineb Gambetti, pensez la vulnérabilité et la possibilité politique qui est offerte par cette vulnérabilité, c'est, vous avez évoqué le mot tout à l'heure, mais je vous invite à y revenir maintenant, c'est penser la coalition, nous dit Judith Butler, la possibilité de ne pas hiérarchiser les enjeux de lutte qui peuvent être d'ordre sexuel, de la politique sexuelle, qui peuvent être de l'ordre des inégalités économiques, une lutte contre le néolibéralisme, qui est aussi une critique que fait de plus récemment Judith Butler, la question du néolibéralisme dans la suite de Michel Foucault. Et voilà, c'est pouvoir penser tout ça sans hiérarchiser, coaliser, faire une coalition de ces revendications, de ces positions finalement subalternes et vulnérables, et en faire un objet politique.
Tout à fait, c'est une politique de coalition ou de cohabitation, si vous voulez. Et en fait, l'idée vient un peu de Hannah Arendt, ou est inspirée par Hannah Arendt et sa notion de pluralité. Et finalement, c'est une politique qui se fonde sur la différence et pas sur le consensus ou sur le consensuel, sur l'accord. Et finalement, ce que la politique que veut avancer à Judith Butler répond à la question de comment vivre avec les autres dont la présence n'est pas choisie ni voulue par nous. Elle réfléchit, par exemple, sur la position d'Arendt sur Eichmann, sur le nazi Eichmann, et sa condamnation, la condamnation d'Arendt, d'Eichmann, qui avait osé choisir avec qui voulait vivre sur cette terre. Donc cette politique-là de nier l'autre, c'est une politique génocidaire, selon Arendt et Judith Butler. Donc finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réfléchit sur les conditions qui, ça a été dit, encadrent ou montre une vie comme non digne d'être appréhendée, non digne d'être pleurée. Ce sont des conditions politiques de précarité. Et chaque condition de précarité peut engendrer un axe de lutte politique qui vise à rendre les vies plus vivables et les vies sujettes au deuil et les vies reconnaissables. Et donc, mais quels axes vont être investis politiquement ne peut pas être décidé préalablement.
Pas préalablement, oui. C'est vrai que c'est important. C'est important dans le trait de Judith Butler. Juste pour terminer, Corinne Pelluchon, vivre une vie bonne, puisque c'est là-dessus qu'on a commencé, c'est donc vivre une vie avec les autres.
Oui, et elle le disait, citant Adorno, comment vivre bien dans un monde mauvais, comment rester humain dans un monde un peu inhumain. Et il y a une réflexion sur les affects. Comment faire en sorte que les êtres s'intéressent aux autres et à plus d'autres qu'à ceux de leur famille, leur patrie, etc. Donc ça, et je voudrais juste finir sur l'idée que le style d'écriture de Judith Butler est très direct et elle essaie de montrer ça, de donner au lecteur l'envie de se mettre dans cette situation. C'est très important parce que...
C'est la première fois cette semaine qu'on salue le style de Judith Butler, plutôt réputé complexe et difficile. Merci beaucoup Corinne Pelluchon, merci beaucoup Zineb Gambetti d'avoir été avec nous pour cette dernière émission de la semaine d'Avoir Raison avec Judith Butler. Je remercie également Vanessa Nadjar qui m'a accompagné à la réalisation toute cette semaine, à la prise de son aujourd'hui, c'était Sylvain Latu. La semaine prochaine, c'est Mathieu Garrigou-Lagrange qui se demandera ce que c'est que d'avoir raison avec le grand architecte américain Frank Lloyd Wright. Un très bel été à toutes et à tous.